Bienvenue pour ce café littéraire qui ne sera pas un café littéraire puisque nous allons parler cinéma avec nos trois invités cinéma réunis, donc Jean Rollin, Alain Jessua et Marc Caro. Donc je vous présente chacun de nos invités en quelques mots. Donc Jean Rollin, l'icône du cinéma fantastique, vous faites votre premier long métrage en plein mai 68, Le viol du vampire. Donc vous avez exploré la figure du vampire, de Dracula, à de maintes reprises. Et donc vous êtes vraiment sur un cinéma de genre. Comment définiriez-vous le genre sur lequel vous travaillez? Puisqu'on va parler cinéma de genre.
C'est de la série B, donc du cinéma de genre. Mais c'est pas du cinéma quand même traditionnel pour autant, c'est un peu du cinéma marginal. Mon premier film était en fait un film d'amateur.
Voilà, une première, un cinéma de genre d'un côté. Alain Jessua, donc vous êtes plus sur le film d'anticipation, si on devait définir le genre sur lequel vous avez travaillé. Donc Alain Jessua, c'est La vie à l'envers, en 63, Jeu de massacre, Traitement de choc, Armageddon, Les chiens que nous avons programmés, Paradis pour tous qui passe actuellement, Frankenstein 90, votre dernier film, Les couleurs du diable. Voilà, Marc Caro, donc, qui après avoir réalisé plusieurs courts-métrages fantastiques, on peut le dire, avec Genet, donc Signe délicatessène, La cité des enfants perdus, et là, donc, est en train de finir un film vraiment science-fiction. Danse 01, donc nous attendons avec impatience. Voilà. Et l'outsider, Pierre Bordage, donc qui n'est pas cinéaste, voilà, mais écrivain, et qui a été amené à collaborer à plusieurs reprises avec le cinéma. Et donc tu apporteras peut-être un regard un peu extérieur sur voilà, quel effet ça t'a fait et ce que tu en retires. Donc nous sommes là pour parler de réaliser des films de genre en France, un défi. Donc je vais commencer par Jean Rollin. Donc Jean Rollin, comment produisez-vous vos films? Et pourquoi avez-vous fait ce type de film? Qu'est-ce qui vous a poussé vers le film de série?
Ça a été un concours de circonstances qui a fait que je me suis lancé là-dedans. J'avais un ami qui était distributeur, qui s'appelait Jean Lavie, et bon, qui était associé avec les gens d'un circuit de salle, qui était le circuit midi-minuit, Cinévox Saint-Lazare, et le Styx au quartier latin. Et lui et ces gens-là avaient acheté en Amérique un film de série B qui s'appelait Le vampire créature du diable. Et puis, qu'ils n'avaient pas vu. Quand le film est arrivé, ils se sont aperçus que c'était un film destiné à la télé-programmation, c'est-à-dire que c'était un film qui durait 1h10. Donc il leur manquait 40 minutes de film pour faire un programme. Alors Jean Lavie, qui me connaissait un petit peu, m'a dit, écoute, je sais que tu aimes bien les histoires de vampires, les films fantastiques, etc. Si tu veux me faire un film de 40 minutes, ben, j'ai une sortie dans 4 salles à Paris. Alors, 4 salles à Paris, c'était une aubaine, et une sortie assurée, et en général, on commence par faire le film, et après on cherche la sortie. Là, il y avait une sortie tout de suite. Donc, j'ai intéressé à ce projet, ce qu'on appelait un Américain de Paris, c'est-à-dire un Américain qui vivait à Paris, et qui était un homme du cinéma, Sobsevski, et je lui ai dit, bon voilà, il y a une sortie, c'est assuré, si on peut faire rapidement un film. Bon. Alors, il a trouvé un peu d'argent, et puis on a réalisé la première partie du jeu du vampire. Et puis, Sapsevski a réfléchi et il a dit, j'ai quand même réalisé un film de 40 minutes, produit un film de 40 minutes, j'ose pas le dire, mais il avait coûté 200 000 francs. 200 000 francs nouveaux, 20 millions anciens. Alors, bon, si j'en rajoute encore 200 000 francs, peut-être qu'il va encore faire 40 minutes et on va voir un long métrage pour pratiquement rien. Donc il m'a dit, écoute, si je retrouve 200 000 francs, enfin ou 300 000, enfin quelque chose comme ça, est-ce que tu peux tourner une suite et qu'on ait un film d'une heure et demie? Alors, c'était pas facile parce qu'à la fin du premier film, tout le monde était mort, j'avais tué tout le monde. Alors, il fallait donc trouver un moyen de les faire revenir. Il n'était pas question de faire un autre film avec une autre équipe. Là, on était une petite bande. Alors, j'ai trouvé un moyen de les ressusciter et j'ai inventé une reine des vampires qui ressuscite comme ça les morts. Et j'ai commencé comme ça. Le deuxième film s'appelait La Reine des vampires. Bon, et on a tourné, effectivement, pour à peu près 250 000 francs, le nouveau 40 minutes de film. Puis on a monté tout ça. Alors, ça s'est fait, bon, évidemment, sur pas mal de temps, avec les arrêts, etc. Et puis, quand ça a été fini, moi, j'étais très content, mais tous ceux qui voyaient le film disaient qu'on n'y comprenait rien du tout. Alors, on a projeté le film dans une séance mémorable, devant les deux distributeurs, les frères Boublil, qui étaient deux anciens marchands de chevaux, et vite de vous dire que un montage comme ça, un film assez farfelu, réalisé par... On était tous des amateurs, hein. C'était le premier film, non seulement de moi, mais de tout le monde, et par une coïncidence extraordinaire, même le chef électricien, c'était son premier film. Alors, il n'y avait qu'un seul comédien qui avait déjà joué, c'était Jean-Louis Philippe, qui était un comédien de théâtre. Alors, bon, on approche les films, et devant les frères Boublil, les femmes de cette fille qui était un malin, toutes les 5 minutes, il leur adressait la parole, et vous savez, là, on s'est bien amusé, il fait ça. Et alors, au bout de 3 quarts d'heure à peu près, les exploitants ont dit, mais on va très bien. Alors, mais oui, c'est parce que je vous parlais, mais en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais bon, alors, à la fin du film, ils étaient complètement submergés, et par le film, et par les dialogues, que Sam leur faisait. Donc, bon, ils ont dit, bon, on va le prendre. Parce qu'il faut dire qu'il y avait, en plus, il y a eu le problème des femmes nues. Alors ça, c'était autre chose. À cette époque-là, le X n'existait pas, bien entendu. Il y avait une censure assez rigoureuse. Et alors, l'Américain, Sam, m'avait dit, bon, si tu veux, je produis le film, mais attention, je veux être sûr de récupérer mon argent. Alors pour ça, il faut qu'il y ait des femmes nues dedans. Avec son accent américain, il faut des femmes nues, ou alors, bon, c'est bien. Alors on a passé à un espèce d'accord, comme ça, moi je voulais des choses un peu bizarres, un peu farfelues, comme ça, bon, avec, tu mets ça si tu veux, mais alors tu me mets une femme nue, même un autre. Alors lui, on avait un espèce de chronomètre, il dit, voilà, t'as tant de femmes nues qui passent, alors moi je vois ça, ça, et on s'est pris au jeu, et alors les acteurs aussi d'ailleurs, c'est ça. Alors simplement, c'est les familles qui passaient. Alors, tu vois trop pourquoi, de temps en temps, il y en avait une. Alors, ça donnait un espèce de vie complètement fou. Et on ne pouvait pas dire vraiment que c'était un film érotique, parce qu'elle ne faisait rien, ces familles. C'était, si vous voulez, j'ai subi beaucoup, là, pour ça, l'influence d'un peintre surréaliste belge qui s'appelle Paul Delvaux, que j'aime beaucoup, et qui a peint des décors de façon extrêmement réaliste, des décors, des gardes, des choses comme ça. Et au milieu, il a toujours placé des femmes nues et hiératiques qui ne bougent pas, voilà, dans les gardes, dans des... Bon, alors voilà ce qu'on sait, c'était ça. Et alors, le film est sorti en mai 68. Alors, en plus, en mai 68, il s'est passé des choses, comme vous le savez peut-être, et c'était la grève générale. Et alors, les gens avaient... Il y avait des gens qui manifestaient dans la rue, mais il y a des gens qui ne pouvaient rien, de la grève. Et alors, ils allaient au cinéma. Mais bien entendu, les grandes compagnies avaient dit c'est la révolution, il n'y a pas question de sortir nos films pendant cette période-là. Donc, j'ai encore bon, le Variscope de l'époque. Le seul film nouveau qui est sorti cette semaine-là, c'était le mien. Ce qui fait que les critiques, qui avaient bien embêté, parce que le film sortant le mercredi, il fallait que le jeudi, il y a une critique de cinéma dans les salles, dans les quotidiens, ils ont tous été le voir. Et alors j'ai eu une volée de points verts, ça m'a jamais été dit. Ils ont dit, comment, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ce sont les fous, ils ont sorti ça. Bon, il y a même, je crois que c'est Figaro, une critique du Figaro, qui a écrit, c'est un film réalisé par un groupe de carabins, après un déjeuner qu'on vient arroser. Bon, c'est comme ça. Sauf qu'il y en a un, hein, d'accueil sorti aussi dans 2-3 salles en province, et notamment à Nantes, où il y avait un quotidien qui s'appelait l'éclair de Nantes. Et là, il y a eu une critique, qui est pour moi le plus beau compliment qu'on lui fait dans ma vie. Le type de l'éclair de Nantes, qui ne déconnerait pas, il est fou furieux, a écrit « tout dans ce film est un défi au bon sens. Alors, je dis ça, c'est une merveille. C'est, on n'a jamais dit, on dira jamais quelque chose d'aussi juste. Mais là où ça s'est mal passé, c'est à Paris, parce que les gens hurlaient dans la salle. Le scandale de l'âge d'or, c'est rien comparé à ça, parce que au Scarlet, ils ont été obligés d'appeler la police pour évacuer la salle, parce que les gens jetaient des objets sur l'écran. Et il y avait toujours un entracte où on vendait des glaces, des merveilles comme ça. Et il y avait un truc qui était très à la mode à l'époque, c'était les Esquimaux Gervais. Et alors, les gens avaient toutes ces sucettes de glace, et ça, c'est ça qu'ils jetaient sur l'écran. Alors ça dégoulinait, c'était épouvantable. Et ils ont été obligés d'évacuer la salle. Et alors, au quartier latin, je me suis dit, au quartier latin, bon, mai 68, ça va passer. Pas du tout, parce que j'étais dans l'esprit mai 68, mais non. C'était des glapissements du gouvernement, et des gens me cherchaient à la sortie. Ils allaient voir l'ouvreuse, et est-ce que Jean Rollin est là, parce qu'il voulait me casser la gueule. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais revu le film, mais j'ai été...
Vous avez continué à faire des films.
J'ai failli m'arrêter, changer de métier. Je ne savais pas faire autre chose, alors voilà, ça c'est... Et comme ça, je me suis dit, ce cinéma-là.
Voilà comment on produit un film de genre. Alors Alain, j'espère, je suppose que votre expérience est autre. Alors comment on produit un film quand on arrive chez un producteur avec un film d'anticipation?
Non,
comment est-ce que
attendez. Alors là, mon premier film, c'était pas du tout un film d'anticipation. Déjà. Alors j'ai perçu à faire une comédie extraordinaire et c'est... Et après la projection de La Vie à l'envers, quand je faisais des interviews à la radio, il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Ah, monsieur, c'est sûr que je suis content de vous rencontrer. Après avoir vu votre film, j'ai fait une dépression pendant 4 semaines. J'ai été à l'hosto pendant... j'ai fait une cure de sommeil pendant 6 mois. J'ai rencontré plein de gens comme ça. D'ailleurs, le film devait être assez juste parce que c'est pas, ça passe à l'Institut de psychiatrie de Chicago comme exemple de schizophrénie. Bon, non, je crois que c'est très difficile. Dès que vous avez un film qui sort un petit peu des cadres classiques de trouver un producteur, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai produit presque tous mes films.
Mais vous êtes du coup devenu producteur.
Ou alors j'arrivais avec ce qu'on appelle en bon français le package, c'est-à-dire on arrivait avec les acteurs, le scénario déjà écrit, et puis on allait voir un producteur qui vous disait, bon bah d'accord, ça m'intéresse, mais c'était pas le sujet qui m'intéressait, c'est parce qu'il y avait déjà une pré-production de fait. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Traitement de choc. Je dirais, Traitement de choc, c'est sûrement le film qui est presque, pas, je parle pas de Frankenstein 90, mais c'est vraiment, qui était un divertissement, mais Traitement de choc, c'est un film c'est vraiment un film de genre, c'est-à-dire c'est un film de vampire, mais que j'ai écrit de façon très 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 logique. Et à la limite, je crois que si j'avais remplacé les cellules fraîches de mouton par des cellules fraîches humaines, si tout à fait possible avec les avortements, puisqu'on fait des crèmes de beauté, on s'est aperçu que vous faisiez des crèmes de beauté avec à base d'embryons humains, finalement c'était une histoire très vraisemblable.
Vos histoires sont souvent très vraisemblables.
Voilà, et ce qui m'amuse, c'est de prendre la réalité et de donner un petit coup de pouce. Et donc ça vient d'anticipation. C'est ce qui s'est passé avec les chiens. Les chiens, c'est ça. J'étais en Italie, et ce qui m'étonnait, c'était pour un enregistrement de musique de film, et ce qui me surprenait, c'est que dans, vous savez, ces petits cafés qu'il y a, pour ceux qui sont allés en Italie, ces petits cafés où on va juste boire un expresso, ou prendre un petit encas, à l'entrée des cafés, la nuit à Milan, il y avait plein de chiens qui étaient en laisse, qui attendaient leur maître. Et ce qui m'avait... j'ai demandé, mais pourquoi? Il y avait une insécurité à l'époque, et c'était des gens âgés qui prenaient des chiens pour les défendre. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant, une ville où les gens prendraient des chiens de défense. Et alors, à l'époque, quand le film est sorti, j'ai eu des procès faits par des maîtres chiens qui les ont perdus d'ailleurs.
Et Henri Bordeaux.
Non, à l'époque, elle aimait surtout les hommes. Et donc, ils ont perdu. Et surtout, j'avais des amis qui me disaient, mais quand même, tu vas un peu loin. Et puis, regardez ce qui se passe maintenant. Ça c'est, je ne dis pas que c'est réconfortant, au contraire. Mais enfin, en un sens, ça prouve que je ne m'étais pas trompé, puisqu'il y a certaines races de chiens qui sont interdites à l'élevage, que à la limite on va demander des permis pour des chiens dangereux, et voilà. Donc, ça c'était un de mes trucs. On me dit tiens, ça va arriver. Mais surtout sans prendre position, sans dire j'ai la solution, parce que sinon je serai gêné.
Et vous avez décidé de produire vous-même pour quelles raisons?
J'avais pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Par exemple, le film qui est projeté actuellement par Ali pour tous, ça a mis 2 ans et j'ai pu finalement le produire parce qu'il y a eu l'accord de Patrick Devers. Ça a entraîné un certain financement, mais après j'ai dit, je sais pas, j'ai dû mettre 4 ou 5 ans pour payer les dettes. Et c'est les joies de la production.
Alors, Marc Caro, vous n'êtes pas encore votre propre producteur?
Non, mais j'y pense.
Voilà, donc c'est dur aussi oui. Aujourd'hui.
Bah, depuis le début. Hein.
De faire un film. Toi, tu es plus sur le fantastique, la SF.
Oui, on a commencé par avec Jean-Pierre, donc par le Bunker, la dernière rafale. Moi, je faisais de la bande dessinée dans mes tabulements à l'époque. Et puis, lui, il faisait de l'animation, moi aussi, d'ailleurs, je faisais ses marionnettes. Puis on s'est dit, on va faire un film.
Donc, le court-métrage a été quand même une porte d'entrée vers le long-métrage.
Oui, parce qu'il a eu pas mal de succès à l'époque, de prix, tout ça. On a tout fait nous-mêmes, vraiment, on a fait ça à deux pendant un an et demi, les décors, les costumes, enfin tout, même le montage négatif et tout. Donc voilà, et puis bon, on était super contents, ça marchait, les gens ont pu faire relativement ça. Donc on s'est dit, on va écrire un long métrage qui était La Cité des Enfants Perdus. Puis on a été voir les producteurs, on a bossé 6 mois là-dessus, storyboard et tout ça. Et puis les producteurs nous ont regardé, ils ont vu deux charlots, deux petits jeunes comme ça arriver avec ce truc-là. Et donc,
avec un film infaisable.
Voilà, trop cher, tout ça. Donc, on en a écrit un autre, Et là, pareil, on a trouvé du financement pour le faire. J'ai fait un storyboard aussi, là, de tout le film. Sur mon ordinateur, sur un Macintosh à l'époque. Et quand ils ont vu le storyboard, les producteurs ont eu peur, non, c'est pas possible, on ne peut pas financer ça. Donc on s'est dit, on va en réécrire encore un autre. Et ça a été délicatessen. On a quand même poireauté pendant plusieurs années avant qu'on trouve le financement. Et on a pu le faire. Et donc là, une fois que ça a un petit peu marché, ça a bien marché et on a pu essayer de refaire le premier, de remettre sur la table le scénario du premier film qui était La Cité. Voilà. Pourtant, mais c'est tout le temps très très difficile à faire ce type de film en France. Pourquoi? Il y a plein d'explications. Mais,
la question qui se pose, on dit souvent que c'est quasiment impossible de produire en France. Du cinéma de genre, que les Français ne savent pas le faire, comme s'il n'y aurait que les Américains, les Japonais, pour le réussir. Alors, est-ce que vous avez une explication, les uns et les autres, sur cette frilosité française à mettre de l'argent dans le cinéma de genre?
Je crois qu'il y a, pour l'instant, un phénomène principal, c'est que le cinéma est financé par la télévision. Et qu'il faut quand même se rendre compte qu'ils ont envie de financer des choses qui doivent passer à 20h30. Et ce type de film n'est pas censé attirer le grand public à cette heure-là. Donc une fois qu'on sait ça, il y a une explication logique un peu au phénomène. Quoi.
En même temps, on voit bien avec le cinéma américain que ça marche. Les gens sont friands de cinéma fantastique, oui, cinéma horrifique.
L'autre différence qu'il y a, c'est que le cinéma américain a un marché intérieur de, je sais pas, 200 ou 300 millions de publics potentiels. Nous, on a quand même 5 ou 10 fois, enfin, beaucoup moins de publics. Donc, on ne peut pas avoir accès au même suite de budget. C'est vrai que les films de genre faits aux États-Unis ont quand même des budgets avec plusieurs zéros en plus, et donc ça fait que c'est beaucoup plus spectaculaire.
Alors Pierre, toi tu as fréquenté le milieu du cinéma en tant que scénariste.
Oui.
Donc tu es arrivé avec ta compétence d'écrivain fantastique, SF.
Quand je suis arrivé au cinéma, oui, pour la collaboration avec Marc, c'est Marc qui est venu me chercher. J'étais aux États-Unis en plus. Il me cherchait à me débusquer dans le Kansas, ce qui était quand même difficile à l'époque de me trouver. Évidemment, quand Marc m'a écrit, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de bosser avec lui. J'avais déjà eu un premier aperçu du travail cinématographique avec Kaina.
Dont on avait parlé l'année dernière.
Dont on avait parlé l'an dernier, qui était une expérience qui s'est assez mal passée, où je m'étais rendu compte que finalement, dans le cinéma, moi qui étais un peu le maître de mes mots en tant que romancier, dans le cinéma, je faisais partie d'une équipe, ce qui change considérablement la donne. Et aussi, une grande différence entre les deux boulots, c'est l'argent. Dans le cinéma, il y a toujours une question d'argent. On a parlé d'argent en permanence. Hein, sur ces trois cas-là, ben oui, c'est...
Le défi, il est là, en fait, il n'est pas artistique.
Il faut trouver l'argent pour... Et surtout le cinéma de genre, enfin fantastique, parce que finalement, on fait du cinéma de genre en France. On fait du polar, par exemple, assez facilement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que ça ne demande pas des décors extraordinaires. Mais le fantastique, la SF, tout ça demande des décors. Or, quand on est écrivain, le mot est gratuit. Donc, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et si la première phrase de mon bouquin, je peux mettre 1000 milliards de vaisseaux arrivés ce jour-là dans un ciel éclaboussant d'étoiles, etc., il n'y a pas de problème. Si on présente ça à un producteur, il va faire sacré en la gueule et ça va se transformer en une voiture arrivée ce jour-là, une Peugeot ou une Fiat Uno. Et donc voilà, c'est toujours cette espèce d'idée qu'il y a la faisabilité derrière. D'ailleurs, Marc, on a eu une expérience, on est obligé de réécrire une histoire parce qu'on avait écrit une première histoire qui s'appelait Mantasme. Qui n'a pas été jugé assez commercial, je crois, trop cher pour le public qu'il pouvait rencontrer. Et donc, le producteur nous a demandé d'écrire une histoire plus faisable et plus, plus commercialisable, entre guillemets, plus facile pour le public. Donc, à chaque fois, on se heurte à cette difficulté-là, qui est l'adéquation entre ce qui va potentiellement, soi-disant, parce que ça, c'est que des estimations, plaire au public, et l'argent qu'on y met dedans. Et ça, c'est vraiment... Du coup, moi, en tant que scénariste, après, je me suis dit, je suis un maillon d'une chaîne, donc je suis un squelette, donc je sais très bien que derrière, ça va être habillé, et que finalement, le tout, c'est d'essayer de rechercher une cohérence et un accord. Le travail avec Marc, c'était intéressant pour ça, parce qu'on a eu sans arrêt des allers-retours. À partir du moment où on a eu l'idée de départ, on est d'accord sur l'idée de départ. On s'est renvoyé sans arrêt la balle, c'était assez intéressant parce qu'il me disait, mais non, ça c'est pas faisable, je me souviens de Mantasme, tu sais, j'avais imaginé une manif en apesanteur, il me dit, mais tu sais combien ça coûte ça, ce genre de plaisanterie, ben non, je savais pas, donc j'ai appris depuis, et voilà, donc après, il y a un côté réaliste à trouver, c'est vrai, réaliste dans le sens où il faut une faisabilité en permanence. Donc ça change considérablement l'écriture.
On écrit différemment pour le
mais complètement, parce que d'abord, dans le roman, on n'a qu'une chose pour se maintenir. Enfin, la seule interface qu'on a avec la personne qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le lecteur, c'est l'écriture. Ça, c'est notre marque de fabrique en tant qu'auteur. Tandis que dans le cinéma, c'est le réalisateur qui, lui, habille son film. Et donc, le scénariste, s'il n'est que scénariste, il disparaît. Il faut accepter de disparaître. C'est tout à fait différent, je trouve.
Alors Jean, entre votre premier film et les films que vous avez pu faire après, est-ce qu'à un moment donné, vous avez produit un film normalement, avec de l'argent, des moyens
Oui,
ça a toujours été difficile et en marge.
Ça a toujours été difficile et en marge quand j'ai produit moi-même. Mais il m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie d'avoir réellement ce qu'on appelle un producteur, et d'avoir juste mon travail de réalisateur à faire. À ce moment-là, j'ai pu faire des choses construites, avec un début, un milieu, une fin, etc. Le Frisson des vampires, par exemple, qui a été produit par les films modernes, c'est un film qui se tient, qui a une organisation littéraire à la base, enfin, etc. Les deux orphelines, vampires aussi, parce que j'avais un producteur qui était presque un mécène. C'était Daniel Philippe Aki, et il avait une petite société de cinéma, et il fallait qu'il la fasse bouger, parce qu'elle n'avait jamais rien fait. Et bon, c'est un monsieur très riche, et pour lui, c'était rien que de mettre tout d'un coup 100 millions sur l'ancien, sur sa société de production pour produire un film. Alors, j'avais été voir avec des amis qui connaissaient, qui m'a présenté à lui, et alors on a fait celui-là. Donc, je n'avais pas de problème de financement, je n'étais pas obligé tous les soirs dans ma chambre d'hôtel de faire des interminables additions pour savoir s'il restait quelque chose en manque. C'était sa société industrielle. Donc le film a été, s'est fait dans des conditions normales. Voilà. C'est les deux seules, je crois que c'est les deux seules fois où j'ai eu vraiment, j'ai fait vraiment un cinéma normal, comme on peut dire.
Voilà.
Ça, ça, je me débrouille tout seul, oui. Avec l'argent, alors, soit l'argent de la famille, quand il en a, soit l'argent des copains, soit le mien, soit on forcément des dettes, à un moment ou à un autre. Enfin, c'est toujours un petit peu la bataille pour avoir les 4 sous nécessaires pour...
Mais vous y arrivez, puisque vous allez sortir un nouveau film...
Oui, que j'ai entièrement produit tout seul, c'est vrai. Mais finalement, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me stimule. C'est de faire, d'avoir toutes les responsabilités et d'être obligé de jongler avec les budgets, avec les vies, etc., de m'arracher les cheveux quand on a dépassé le budget de 10 centimes, etc. Ça fait partie du jeu. Et ceux qui comme moi, qui font du cinéma comme ça, comprennent, c'est la même chose pour eux. Souvent, j'ai des amis qui font de la série B qui m'ont dit, en fin de compte, on râle toujours parce qu'on n'a pas les moyens de ci, de ça, mais c'est, en fin de compte, c'est là où on est à l'aise. Si on avait plusieurs dizaines de millions à la disposition pour faire un film, on serait un peu gêné quelque part. Il faut qu'on ait à se battre avec les décors, à se battre avec le temps. Par exemple, je serais très simple, on tourne de nuit, je tourne beaucoup de nuit, mais c'est plus bien ça, et puis c'est quelquefois plus intéressant. Quand on tourne de nuit, il se met tout d'un coup à pleuvoir. Bon, un film à un budget conséquent, bon, on arrête et on dit on va attendre qu'il ne pleuve plus. Bon, je me souviens que Jean-Luc Godard a eu cette aventure-là, il s'est mis à pleuvoir avant de tourner un film, et il a rajouté une phrase de dialogue à des acteurs, il dit tiens, il pleut. Voilà, c'est passé comme ça. Et c'est de cette manière-là qu'on réagit. Il se met à pleuvoir, ce n'était pas prévu, ben on intègre la pluie dans l'histoire. Et on fait que c'est normal qu'il pleuve.
Alain Jessua, donc vous avez arrêté le cinéma, vous ne faites plus de films?
Peut-être qu'il y aura une...
La production vous a usé
Oui, moi c'est tout à fait le contraire. À un certain moment, ça devenait un cauchemar d'être... Pour un producteur, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la garantie de bonne fin. C'est-à-dire que donc, même lorsque vous avez le financement, il faut garantir que le film se termine. Et en général, il y a toujours un tout petit peu de dépassement. Et quand vous avez un peu de dépassement, vous traînez pendant des années. Et il y a eu un moment où ça m'a grignoté la vie. Que contrairement à Jean, ça ne m'excitait pas du tout d'aller discuter avec des financiers ou avec mes banquiers. Moi, je me souviens de journées, j'avais l'impression, avant mon rendez-vous avec le banquier, c'était exactement comme certains avant le passage d'un examen. Mais qu'est-ce que je vais lui raconter comme connerie. Et puis bon, j'y arrivais, mais c'était un vrai cauchemar. Et à un moment, j'ai eu la chance de pouvoir revendre les films possédait. Donc j'ai fait un film avec un producteur en étant coproducteur moi-même en risquant mon travail seulement, qui était Les couleurs du diable, qui a été une sortie absolument désastreuse, sortie, je sais pas, à l'époque de Jean, quand on sortait dans 4 salles Paris, c'était déjà très très bien. Si vous sortez dans 4 salles Paris maintenant, c'est même pas la peine. Vous êtes condamné à une mort subite. Et donc, j'avais des sujets que j'avais vraiment envie de traiter, donc j'ai
En 98, j'ai commencé d'écrire.
Les couleurs du diable est un film fantastique.
Alors, donc, oui, c'est un film fantastique.
Qui vend son âme au diable, à Mephisto.
Et donc, j'ai commencé d'écrire. Et il est possible que le dernier roman, Bref séjour parmi les hommes, j'ai un ami qui fait l'adaptation actuellement. Il est possible que je tourne, mais j'ai déjà, entre-temps, j'ai écrit un quatrième roman qui va sortir, qui va être édité au début de l'année prochaine. Et au moins, je suis confronté à des vrais problèmes de création et pas d'aller voir, comme l'expliquait Marc tout à l'heure, d'être obligé d'aller convaincre des types de la télévision, parce qu'on s'est mis sous la coupe de la télévision, que autrefois, quand on avait du mal à monter un film, on allait voir des gens du métier. C'était les distributeurs, c'était la plupart du temps des gens qui avaient eu d'abord un vrai contact avec le public parce qu'ils possédaient des salles. Ils savaient qu'il n'y avait pas de loi dans le genre. C'était des hommes du cirque, hein. c'était des gens c'était des saltimbanques qui un jour avaient gagné beaucoup d'argent avec un film, qui le lendemain, un film auquel ils ne croyaient pas du tout, qui marchait très bien, un film auquel ils croyaient qu'il ne marchait pas, donc ils avaient une forme d'humilité quand même par rapport au projet qu'on leur soumettait. Ils disaient peut-être je me trompe, mais ça ne me plaît pas. Ils jouaient avec leur cœur quand même, enfin avec leur goût. Là maintenant vous avez affaire à des types qui pourraient travailler pour L'Oréal, pour McDonald's, pour Nicolas, et qui appliquent les mêmes critères pour le cinéma, pour le cinéma, que pour... c'est du marketing. Alors, on formate pour ce qu'ils appellent le prime time, 20h30, et toujours la ménagère de moins de 50 ans, ou plus de 50 ans, voilà. Ça, c'est un truc que je ne supporte plus, mais bon, mais en fait, j'ai vraiment envie de tourner un film maintenant, et je pense que je le ferai, avec des nouveaux moyens, c'est-à-dire que maintenant il y a ces caméras DV qui sont des petites merveilles. Quand Astruc parlait de la caméra stylo, on a ça, mais il faut avoir le sujet qui s'y prête, il faut faire un film comme on est avec la fluidité de l'écriture romanesque. Vraiment, moi j'ai des amis qui tournent actuellement en DV, ils tournent avec 10 techniciens et c'est une liberté totale. Et ça, je crois, c'est la seule expérience qui me tenterait vraiment. C'est être libre avec une caméra. Tiens, on va tourner là, on tourne là. Et ça, c'est formidable.
Alors, Marc, est-ce qu'à ton avis, avec les nouvelles technologies, le cinéma de genre va se développer peut-être un petit peu plus ?
Je pense que oui, parce que quand on voit ce qui se passe sur Internet, on voit des gens qui arrivent à faire dans leur chambre de bonne des films avec de la 3D qui est du niveau de films américains pour 3 francs 6 sous. Quand on voit que des films sont même des longs métrages maintenant commencent à être faits avec le téléphone portable, c'est vrai qu'on a maintenant à disposition des outils que moi quand j'ai commencé dans les trucs un peu numériques tout ça, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu avoir ça chez moi un jour.
Donc
voilà, ça coûtait des millions, des centaines de briques et tout. Et là, on a ça à la maison. Les bandes montage numériques, même les trucs simples, même Final Cut et des choses comme ça, on les a à la maison. Voilà. Donc on a les outils de. Je pense que maintenant, au niveau du financement, le problème est qu'il n'y a plus personne qui a envie de prendre de risques. C'est quand même ça. C'est genre souvent c'est. On a des comptes à rendre à toute une hiérarchie. Et donc plus personne ne prend de risque. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir que nous, on prenne le risque d'utiliser ces outils pour faire des choses. Et après, on verra, on essaiera de trouver des nouveaux moyens de les diffuser. Parce que c'est vrai que maintenant, si on ne rentre pas dans, comme tu disais, une standardisation avec... c'est juste quand même les chiffres qui dictent, c'est plus la qualité du film qui est importante. C'est genre tout le marketing qui a été mis dessus. Si on ne fait pas un genre de, comment ça s'appelle, d'événement, parce que maintenant c'est un événement qu'on fait, c'est pas un film, les gens n'ont rien à
faire peut-être des films, j'espère que non, mais des fois on se demande. Et si on ne fait pas un événement, eh ben on a, comme tu disais, 4 salles, et puis on dégage au bout d'une semaine. C'est quand même, ça devient là aussi le flux tendu. Ces gens, les gens qui ont les salles de cinéma savent que de toute façon, vaut mieux mettre un nouveau film si votre film n'a pas fait le quota, parce que ça fera plus de spectateurs. Donc il y a tout un genre de nouveau système qui a été mis en place. On sait aussi que maintenant les films ont une vie après la salle. Donc ça a vraiment changé. Donc je pense que là aussi, si on veut réacquérir une certaine autonomie, il faut trouver de nouveaux moyens et être inventif à ce niveau-là pour un peu squeezer ces circuits qui deviennent de plus en plus limité à un certain type de film.
Ton prochain film tourné en DB, peut-être?
Je ne sais pas. Mais pourquoi pas?
Bon, est-ce que vous avez des questions, peut-être?
Oui, je vais apporter une petite précision à Scalima. Je suis malheureusement pas d'accord avec vous. Quand vous dites que la série B a un avenir à cause des facilités de tournage. Moi je dis malheureusement, bien sûr, vous avez une petite caméra DV, vous faites votre film avec des copains, il vous coûte presque rien, d'accord. Bon, et vous faites un série B. Mais vous allez le sortir où? Qu'est-ce que vous allez en faire de votre série B? Il n'y a pas plus ça là.
C'est ce que dit Marc, c'est qu'il faut aussi.
Il faut l'événement. Et alors bon, ça. Comme vous dites,
il y a quand même des films qui sont faits dans ces conditions-là. Vous regardez Blair Witch Project, des choses comme ça, qui ont bénéficié de nouveaux supports en faisant du buzz sur Internet et des choses comme ça, qui, justement, je pense que là aussi, il faut être inventif. Ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que maintenant, il ne suffit plus de faire un film. Faire un film, en fin de compte, on a les outils, on a tout le background technique pour le faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi trouver de nouvelles façons de le distribuer, de le faire connaître, de toucher les gens que ça pourrait intéresser. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe qui existe. Plus on a à tous les niveaux, que ce soit au niveau du livre, au niveau de la musique, du disque, des films, il y a eu quand même un grand changement, c'est que tous les jours, c'est des centaines de disques de films, enfin peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines de disques de films qui sortent. Chaque semaine, il y a 10-20 films qui sortent. À une époque, c'était quand même un film par semaine. Au niveau des livres, c'est des milliers de bouquins tous les ans. Tous les libraires, maintenant, ça ne fait même plus où les mettre. Donc, on est obligé de lutter contre cette profusion. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour se remarquer. Ce type de film-là, à part dans les circuits américains, faut bien quand même se rendre compte que n'importe quel film américain de genre bénéficie de budget pour le marketing qui coûte 10 fois plus que le budget du film. Mmh. N'importe quelle petite série B d'horreur et tout ça, là, tous les remakes d'Amityville et de machin comme ça, le budget pour le promouvoir au niveau mondial coûte 10 fois plus que ce qu'a coûté le film. Donc on ne peut pas lutter contre ce genre de choses-là. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres moyens à travers Internet, à travers d'autres systèmes, peut-être repartir comme à la grande époque du début du cinéma avec sa cassette et faire la tournée des popotes dans tout. Je pense qu'il faut vraiment autrement, on n'a qu'à baisser les bras.
Oui, mais alors ce que vous dites, c'est qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'on a les moyens techniques.
J'avais dit que j'avais des solutions.
Mais comment le diffuser?
Je pense que là aussi, il faut être inventif et trouver de nouveaux systèmes. Peut-être les diffuser à travers... maintenant, on va avoir nos petits iPods vidéo. Il y a d'autres moyens à travers les téléphones portables. Il y a plein de choses qui sont en train de naître là. Et je pense qu'il faut s'adapter à ce qui est en train d'apparaître.
Oui. Je souhaite que vous ayez ça.
Je pense que moi aussi, parce qu'autrement, on n'a pas d'autre solution. Je pense que j'ai l'impression qu'on se retrouve quand même quelque part à peu près dans les mêmes conditions que ce qui a généré la nouvelle vague. C'est qu'au bout d'un moment, la pesanteur des studios, des choses comme ça, a fait qu'il y a eu quelques créations technologiques qui étaient les petites caméras et tout ça, qui ont permis aux gens d'aller filmer dans la rue. Et là, je trouve qu'on a une genre de, comment dire, popularisation, ou en tout cas mise à disposition d'outils qui n'étaient pas possibles avant. Je vois comment a changé le monde de la musique, parce que chacun peut avoir maintenant, pour pas tellement d'argent, un home studio à la maison et faire des trucs de qualité. Je trouve ça sain. Et je trouve ça, bon, effectivement, ça génère aussi cette profusion. Donc il faut trouver un genre de moyen pour, à travers cette masse, arriver à atteindre les gens qui seraient... Je trouve que le problème, moi, ces temps-ci, c'est qu'il y a des films que j'ai envie de voir, et j'ai même pas le temps de les voir.
Oui, je sais.
Vous allez dans un cinéma, et je voudrais voir celui-là, mais... Monsieur, il finit deux semaines.
La durée de vie est 15 jours actuellement.
Voilà. On a la chance quand même de pouvoir avoir, après le support DVD, ou que ça passe à la télé, où il y a d'autres supports. À une époque, moi j'ai connu quand même l'époque où je voyais un film, j'allais le voir trois fois, parce que si j'aimais le film, je savais que je ne pourrais peut-être pas le voir avant 20 ans.
Ouais.
Alors que maintenant, ça a changé. Donc, je pense qu'il faut... Il faut voir un peu ce qui se passe autour de nous et essayer de faire en fonction.
Ouais, voilà. C'est vrai, bon.
Je pense aussi quelque chose d'un peu réconfortant, c'est que c'est, je ne dis pas la fin, mais la fin d'une certaine ère de primauté, de priorité des chaînes généralistes. On a un cas qui est typique actuellement, qui est certain que le groupe qui est derrière TF1 veut vendre. Parce que s'ils ne seraient pas séparés de la direction de la chaîne de cette manière-là. Parce qu'ils sentent que c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, où il y a de plus en plus de succès pour les chaînes thématiques. Nous, pour notre diffusion aussi, ça risque d'être très important. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites chaînes qui sont intéressées par des films, et notamment par des films de genre. Il y a au moins 3 ou 4 chaînes. Actuellement en France. Regardez même parfois dans les séries américaines pour la télévision, qui sont des séries populaires et qui sont très très culottées. Vous avez Home Video, qui produit souvent des séries très 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 culottées. Et je crois que ça va venir en France aussi, parce que c'est une nécessité, parce que le public le demande. Donc ça, c'est un côté optimiste.
Pierre, est-ce que tu as envie de continuer à écrire pour le cinéma et qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu en attends?
Alors, pour moi, les collaborations avec l'audiovisuel, plus généralement que le cinéma, parce que j'ai aussi un petit peu travaillé sur la télévision, c'est une succession de déceptions et d'exaltations. C'est vrai que le travail avec Marc a été super agréable et j'étais vraiment très content de le faire. Et puis pour d'autres types de boulot, ça a été beaucoup plus désagréable. Parce que je me suis frotté aux fameuses hiérarchies télévisuelles qui sont assez terrifiantes, puisque actuellement, effectivement, il y a beaucoup de séries thématiques américaines, la plupart produites par HBO, qui arrivent sur Canal+, ou sur d'autres chaînes, et dont tout le monde est complètement ébahi, tout ça extraordinaire et tout, et nos chaînes à nous disent, on va faire la même chose, on va faire des trucs de genre, ouais. Et donc on appelle des auteurs de genre, ouais. Donc ça semble de bien coller ensemble, et d'un seul coup, on propose, j'ai travaillé pour un projet de série, et je suis parti assez vite, ou on m'a prié de partir assez vite, parce que c'était une série qui oscillait entre science-fiction et fantastique. Et moi, je dis, il faut la tourner en science-fiction, évidemment. Et... quand on commence à proposer des idées de science-fiction, c'est « Ah ben non, c'est pas possible. Ah ben non, non, ça marchera pas. Chez nous, ça marche pas, ça. Ah ben non, non, il ne faut pas faire comme ça. Non, on va plutôt faire un saut, c'est-à-dire un feuilleton, avec un petit arrière-plan de... Mais il ne faut pas trop mettre en avant, hein, parce que sinon... Alors voilà, on voulait faire une série de genre sans jouer du tout le jeu du genre. Or, le genre, c'est aussi des codes. Et je leur ai dit, si vous voulez vraiment faire une série de genre, prenez les codes, détournez-les si vous voulez, jouez avec, faites-en ce que vous voulez, mais prenez-les. faites pas semblant, sinon ça sert à rien. Donc voilà, on m'a dit, mais non, on ne correspond plus tellement au profil du scénariste recherché. Donc je suis parti de ce projet. J'étais très soulagé parce que je voyais tout le poids énorme de la hiérarchie. C'est-à-dire que tout le monde tremblait à tout niveau. Ce que tu disais tout à l'heure, Marc, c'est chacun a peur de perdre sa place. Donc, la politique du risque zéro, c'est tout raboté, c'est surtout rien qui dépasse. Et le producteur qui va voir le diffuseur, c'est-à-dire une société de production va voir une chaîne, et la chaîne dit oui, mais non, nous, il ne faut pas que ça se passe comme ça, parce que ceci, cela. Donc, le producteur revient vers le scénariste, oui, mais attends, sinon on n'aura pas d'argent, c'est toujours le même problème, nerf de la guerre et autres. Et du coup, ça devient une sorte de produit standard qui ressemble étrangement à Julie Lescaut. Bon d'accord, ça fait 40% sur TF1, mais on était là pour justement faire autre chose. Et je pense qu'il faut qu'une nouvelle génération de décisionnels télévisuels arrive, parce que c'est urgent, parce que sinon tout est raboté, tout est en permanence réduit. Et on ne peut pas avoir vraiment d'audace, alors que ces gens s'extasient en permanence. Je ne sais pas si vous avez une série qui s'appelle Deadwood, qui est une série western, et qui est d'une audace folle, très peu d'action, je vois beaucoup de langage, et presque du Shakespeare dans une ville de l'Ouest sans foi ni loi, et c'est un truc saisissant, et on n'est pas capable de faire ça. Alors il faut peut-être arriver par effectivement des biens. Moi je suis partant pour réfléchir sur justement ces nouveaux supports et proposer des histoires qui s'adaptent à ces nouveaux supports, et par ce biais-là, peut-être par la bande, on va y arriver, parce que si là du coup on fait des projets qui rencontrent un large succès public, les télévisions vont venir au secours du succès, comme elles peuvent si bien faire, et demander à de nouveau à ce qu'on travaille pour elles.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est à travers les nouveaux supports qu'on va pouvoir essayer d'accéder, parce que c'est des supports encore vierges et qui ne maîtrisent pas du tout. Autant la télévision, maintenant, c'est rentré pour eux dans des standards, dans des boîtes, dans des codifications. Ils savent que pour avoir tel taux, encore que c'est en train de changer, puisqu'il y a quand même une grande migration du public, en tout cas jeune, vers d'autres, vers Internet, et ils ne regardent plus tellement la télévision. Mais je pense que c'est à travers des nouveaux supports comme ça, parce que c'est un peu des terrains incognita pour eux, et qu'il y a peut-être encore moyen de faire passer, de leur raconter ce qu'ils veulent entendre.
Très bien, mais ce sera le mot de la fin, je crois, qu'il est déjà moins de 10, et Alain Gessuel doit partir. Voilà, je vous rappelle qu'il y a la projection à 17h30 de Paprika, de Satoshi Kon, que Marc présentera, donc dessin animé japonais. Voilà.
Je vous conseille fortement d'aller voir.